Bonjour à chacun. Nous sommes le dimanche 5 juillet. Dans quelques instants, je vous lirai un extrait de la parole de Dieu choisi dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 3. Mais pour le moment, je voudrais vous rappeler ou vous apprendre peut-être une petite histoire qui a eu lieu il y a environ 130 ans dans notre beau pays. C'était en 1889. À ce moment-là, la ville de Paris a accueilli l'exposition universelle. On a voulu pour l'occasion construire un monument unique, et parmi toutes les suggestions reçues, il était question d'une tour géante de plus de 300 mètres. Gustave Eiffel avait été désigné comme architecte et chef de chantier. Plusieurs doutaient qu'il soit capable de mener son projet jusqu'au bout. Les contestations venaient de toutes parts. Des artistes, des écrivains de renom comme Zola ou Maupassant, des musiciens célèbres comme Gounod avaient signé un article dont je vous donne les premières lignes. Nous venons, écrivains, peintres, sculpteurs, architectes, amateurs passionnés de la beauté jusqu'ici intacte de Paris, protester de toutes nos forces, de toute notre indignation, au nom du goût français méconnu, au nom de l'art et de l'histoire français menacés, contre l'érection en plein cœur de notre capitale de l'inutile et monstrueuse tour Eiffel, que la malignité publique, souvent empreinte de bon sens et d'esprit de justice, a déjà baptisée du nom de tour de Babel. Sans tomber dans l'exaltation du chauvinisme, nous avons le droit de proclamer bien haut que Paris est la ville sans rivale dans le monde. Allons-nous donc laisser profaner tout cela? Car la tour Eiffel, dont la commerciale Amérique elle-même ne voudrait pas, c'est, n'en doutez point, le déshonneur de Paris. Et après toutes ces discussions, on a construit la tour Eiffel, qui est encore visible de nos jours, bien sûr. Aujourd'hui, tout le monde penserait que Paris est défigurée si elle n'était plus là. Il y a d'autres constructions bien plus anciennes qui ont résisté aux affronts du temps aussi et sont encore visibles, de notre temps à nous, telles les pyramides en Égypte. Et un autre type d'édification résiste envers et contre tout aujourd'hui encore, je veux parler cette fois de l'Église, tout simplement. Et nous sommes nous-mêmes des bâtisseurs de cette Église. En tant qu'enfant de Dieu, dans l'équipe qui coopère à l'édification de son Église, Jésus étant le chef de l'Église, il en est le fondement et la pierre angulaire. Participer à la vie d'une Église locale est un des plus grands privilèges que nous pouvons expérimenter de ce côté-ci de l'éternité. Les assemblées générales annuelles de l'Église sont parfois, pas suffisamment peut-être, l'occasion de s'arrêter pour réfléchir et remercier Dieu pour sa fidélité durant les temps écoulés. Nos projets, la croissance spirituelle, nos ministères, les finances, etc., sont autant de sujets, bien souvent, de réjouissance. Elles sont aussi, ces assemblées, l'occasion de regarder l'avenir avec confiance, en comptant sur la fidélité de Dieu pour les projets à nouveau, les enjeux, les priorités, et les finances auxquelles il va pourvoir. Puisque Jésus bâtit son Église, il nous invite à y participer. L'Épître aux Hébreux contient un texte fabuleux, riche et encourageant à la fois, pour prendre part à l'invitation que le Seigneur nous fait. Et ce texte, nous le trouvons au chapitre 3. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous qui faites partie du peuple saint et qu'il a appelé à avoir part au bien céleste, fixez vos pensées sur Jésus, l'apôtre et grand prêtre de la foi que nous reconnaissons comme vrai. Il est fidèle à celui qui l'a établi dans ses fonctions, comme autrefois Moïse l'a été dans toute la maison de Dieu. En effet, Jésus a été jugé digne d'une gloire bien plus grande que celle de Moïse. Tout comme l'architecte qui a construit une maison reçoit plus d'honneur que la maison elle-même. Il n'y a pas de maison sans constructeur. Et celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Moïse, pour sa part, a été fidèle dans toute la maison de Dieu, mais en tant que serviteur, chargé de rendre témoignage à ce que Dieu allait dire par la suite. Christ, lui, est fidèle en tant que fils à la tête de sa maison. Et sa maison, c'est nous, si du moins nous gardons la pleine assurance et la fierté que nous donne notre espérance. Parole du Seigneur. Quant à nous, nous avançons sans avoir encore une image très précise de ce que nous serons en tant qu'Église, en tant qu'individu peut-être aussi, et de la différence réelle que nous produirons dans la vie de plusieurs dans notre ville et notre région, notamment par notre témoignage. Alors, de quelle manière cette page de l'Écriture que nous venons de lire ou d'écouter peut-elle nous inspirer? Premier point. Nous entendons que Dieu nous a donné des modèles de fidélité. Pour nous encourager à demeurer fidèles, rien ne vaut des modèles que nous pouvons suivre, dont nous pouvons nous inspirer. Selon le premier verset lu, Jésus lui-même est notre divin modèle. Le texte nous dit « Fixez vos pensées sur Jésus, l'apôtre et grand prêtre de la foi que nous reconnaissons comme vrai. » Nous sommes appelés à regarder à Jésus qui est l'apôtre, donc l'envoyé de Dieu. Mais il est aussi le souverain sacrificateur qui nous a donné accès au Père par son sacrifice à la croix du calvaire. Si nous avons la foi qui sauve, et si par voie de conséquence nous sommes justifiés, si nous sommes rendus justes devant Dieu, et que nous pouvons confesser son nom, ce n'est que par sa grâce et par sa fidélité. Jésus a été fidèle à son Père, comme Moïse l'a été envers Dieu, pour conduire le peuple dans la terre promise. Pour les Juifs, Moïse était un modèle par excellence, un héros, un prophète. Il a été l'envoyé de Dieu sous l'ancienne alliance. La maison de Dieu, dont il est question dans le texte de l'Épître, n'était pas un bâtiment seulement, mais le lieu où Dieu habitait. Bien que Moïse ait été un personnage exemplaire aux yeux des Juifs, un modèle de fidélité même, peut-on dire, le Fils de Dieu est encore plus grand, puisqu'il est celui qui a construit la maison de Dieu, qui bâtit son Église, qu'il a lui-même instituée. Sa gloire est supérieure à celle de Moïse, qui n'était qu'un homme. Un grand homme, oui, mais un homme tout de même avec ses limites et ses fautes. Dans notre contexte, il en va de même. Nous avons besoin de modèles, c'est-à-dire de personnes qui nous inspirent par leur vie, leurs réflexions, leurs actes, des personnes à imiter. Mais toutes ces personnes demeurent néanmoins des modèles humains, faillibles, pécheurs et limités aussi. Nous avons le même fardeau et le même rôle que Moïse. Il a été un modèle de fidélité dans la maison de Dieu, mais son rôle a été de rendre témoignage à celui qui allait venir, Jésus, le bâtisseur, Dieu le Fils. Nous avons besoin de modèles de fidélité, sachons nous en inspirer, surtout de Jésus, donc, qui est le modèle infaillible, ce que aucun être humain ne peut être. Deuxième point, Dieu est le bâtisseur fidèle de son Église. Nous lisons au verset 4 « Il n'y a pas de maison sans constructeur, et celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. » Une deuxième vérité que nous retrouvons dans ce texte est que Dieu est le constructeur fidèle. S'il a créé le monde à partir de rien par son souffle, et qu'il continue à soutenir toutes choses par sa parole puissante, construire sa maison, son église, est forcément dans ses capacités. Lorsque ce bâtiment dans lequel nous nous réunissons à l'habitude a été acquis pour l'Église libre de Bergerac il y a une vingtaine d'années, vous saviez déjà que les ouvriers qui ont travaillé à sa construction n'ont pas construit l'Église de Jésus-Christ, mais qu'ils ont construit un bâtiment voué d'abord à une autre utilisation et qui est devenu par la suite un lieu de rencontre utile qui permet d'avoir une visibilité dans la ville, mais qui n'est pas notre chez-nous éternel. Il disparaîtra un jour. Dieu seul demeure le constructeur de son Église, Dieu invisible mais tout-puissant, et bien à l'œuvre, malgré les découragements et les défis que nous pouvons vivre ou rencontrer. Les ouvriers ont construit un bâtiment alors que Dieu est le constructeur de son Église. Dieu est à l'œuvre avec son plan de rédemption depuis le début de l'histoire de l'humanité. Il a choisi de sauver des gens de toute langue, de toute tribu, de toute race et de toute nation avant la fondation du monde. Ce plan, il va l'accomplir, bien sûr, avec le retour de son Fils qui reviendra sur la terre, et des nouveaux cieux et une nouvelle terre seront créés où la justice va habiter éternellement. Dans les prochains temps, Dieu sera fidèle dans son œuvre de construction de l'Église, comme il l'a été quand sa maison a été élevée sous le ministère de Moïse. Dieu sera au rendez-vous pour nous aussi et poursuivra avec nous son œuvre de construction. Nous participons au plus beau chantier dans l'univers, l'Église de Jésus-Christ. Quel privilège avons-nous? Troisième point. Nous sommes la maison de Dieu si nous demeurons fidèles. Et nous lisons au verset 6, « Sa maison, c'est nous, si du moins nous gardons la pleine assurance et la fierté que nous donne notre espérance. » Une troisième et dernière vérité qui nous encourage. Nous sommes sa maison si nous sommes fidèles, si nous témoignons que Jésus-Christ vit en nous, que nous nous glorifions de lui appartenir et que notre espérance est ferme. Cela ne doit pas rester un concept abstrait et théorique. Il nous faut passer à l'action, retrousser nos manches et démontrer notre appartenance à Christ en lui étant fidèle. « Nous avons part au Christ », nous est-il dit un peu plus loin dans le même chapitre, « si du moins nous restons fermement attachés jusqu'à la fin à la réalité du commencement. » Soyons déterminés. Lorsque Dieu nous montre que nous n'avons pas été fidèles, rappelons-nous ces paroles percutantes de Paul dans son épître à Timothée, sa deuxième épître, chapitre 2, versets 11 à 13. « Cette parole est certaine, dit-il, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous manquons de foi, lui demeure digne de foi, car il ne peut se renier lui-même. Où serions-nous aujourd'hui sans la fidélité de Dieu et sans notre désir de demeurer fidèles? Frères et sœurs, nous qui participons à la vocation céleste, avec l'appel de Dieu à le servir, rappelons-nous que nous avons des modèles de fidélité. Que Dieu est le constructeur fidèle, que Jésus poursuit son œuvre de construction et que nous sommes sa maison si nous demeurons fidèles. Le livre des Proverbes pose la question. Beaucoup de gens proclament chacun leur bienveillance. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Alors demandons-nous, comment pourrions-nous être un serviteur ou une servante fidèle dans son Église en ces temps? Puisse Dieu, dans sa fidélité, nous trouver, nous aussi, fidèles jusqu'au bout. Amen.